Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Marine Leleu. Si son nom ne vous dit rien, c'est peut-être que vous n'avez pas assez traîné sur Insta à suivre les Fit Girls ces dernières années, cette communauté de jeunes femmes sportives qui utilisent les réseaux sociaux notamment comme une sorte de journal de leurs entraînements. Ou bien que vous n'êtes pas adepte du triathlon, parce que c'est la discipline reine de Marine. Marine est donc très connue sur Insta, comme je vous le disais, mais également sur YouTube, où elle a commencé par poster des vidéos de conseils sportifs. Elle est coach sportive de formation, avant de raconter en images ses différents défis. Son plus gros défi, elle l'a réalisé en juin 2018, puisqu'elle a relié Londres à Paris dans un triathlon de l'extrême, nécessitant notamment, excusez du peu, de traverser la Manche à la nage. Tiens d'ailleurs, une petite question, à votre avis, ça met combien de temps de traverser la Manche à la nage ? Marine y répond dans cet épisode. On revient avec Marine sur son histoire et surtout ses 18 derniers mois où après un accident de la route, elle a revu ses priorités pour lever un tout petit peu le pied côté sportif pour mieux se consacrer à son entreprise qu'elle a créée avec Chloé, sa meilleure amie. J'espère que cet épisode vous plaira. Merci à Marine de s'être confiée à moi dans cet entretien. Si vous découvrez le podcast Histoire de succès grâce à Marine, que cet entretien vous a plu, mettez-lui une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast en cherchant Histoire de succès. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi parler de cet épisode et de ce podcast autour de vous, l'envoyer à un ami, vous abonner sur votre téléphone. J'interview chaque jeudi matin des personnalités qui m'inspirent et qui devraient vous inspirer. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Marine.
J'ai commencé à écouter beaucoup plus de podcasts pendant les grèves.
Ah oui,
parce que je marchais beaucoup. Ouais. Et du coup, je me suis mise à écouter pas mal de podcasts et même du coup, j'en partageais un petit peu et je demandais aux gens ce qu'ils écoutaient. Et du coup, c'était vraiment génial. Et du coup, bah, je trouve que c'est bien. Même beaucoup me suivent des coureurs et des gens qui disent aujourd'hui, j'ai couru avec ça. Donc, non, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, si le podcast dure une heure, allez faire un run d'une heure.
Quand je cours, si tu veux, j'ai tendance à mettre de la musique qui est rapide et donc à courir trop vite. Et donc, au bout d'un moment, à me cramer un peu. Mmh. Une de mes salariées, d'ailleurs, qui avec qui on discute de running et tout, elle me disait, mais mets un podcast, en fait, c'est plus cool. Et de ce fait-là, t'as tendance à vouloir courir moins vite et à courir plus longtemps, quoi.
C'est vrai. J'ai fait, c'est vrai.
Pas bête idée. En tout cas, merci beaucoup, Marine, de venir dans l'histoire de succès. C'est trop cool. On va parler un petit peu de toi. Alors, comment est-ce que tu te définirais? Parce que c'est un peu compliqué, t'as plein de casquettes.
Exactement.
T'es youtubeuse à la base, mais est-ce que t'es vraiment youtubeuse?
Alors, en fait, c'est un peu le terme que j'emploie, exactement, c'est le mot casquette. C'est vrai que j'ai plein de casquettes, vraiment. Donc, comme tu viens de dire, je fais des vidéos sur YouTube, mais je peux pas me considérer comme youtubeuse. Donc, par la force des choses, je suis youtubeuse parce que quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, voilà. Je suis pas assez régulière, j'ai pas de jour précis où je sors une vidéo, j'ai pas de ligne éditoriale spécifique. Je fais un peu comme je veux, ce qui me plaît, voilà. Après, à côté, donc je suis coach sportif de base. J'ai fait mon diplôme à Nantes. Donc, je coachais des gens de tout âge, tout objectif. Et à côté, avec mon associé, donc Chloé Tedali, on a créé notre société qui s'appelle Live. Et du coup, qui pour l'instant, on est dans le textile sur les chaussettes. Voilà, du Made in France. Voilà, et puis bien sûr à cause il y a tout ce qui est sponsoring, travail sur l'influence, parce que comme je suis assez présente sur les réseaux sociaux, forcément il y a un travail à faire à côté, et ce qui est vraiment génial parce que ça me permet de faire différents voyages. Là par exemple, on va aller au JO à Tokyo, enfin c'est génial quoi. Je me rends compte que avec tout ça on a beaucoup de chance de voyager, de faire des choses qui sont incroyables, mais à côté la chance on se la crée aussi et on travaille pour, parce que c'est les réseaux sociaux, c'est très vu là, les influenceurs, c'est un peu, je trouve un peu rabaissé, alors que c'est juste génial.
Pourquoi tu dis ça?
C'est un peu, j'ai l'impression, mais je pense que ça change un petit peu, mais c'est un influenceur, c'est un peu quelqu'un qui fait des photos, qui poste sur Instagram et qui gagne des sous, qui fait des partenariats. Voilà. Alors que Bah, ce qui est un peu frustrant, c'est que des fois, les gens, ils râlent parce qu'on fait de la promo, mais à côté de ça, ils sont très contents de nous demander nos codes promo. Et ils sont très contents de découvrir un produit, de découvrir peut-être un concept, de découvrir quelque chose. Et c'est pas, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai que du coup, c'est un nouveau métier, un nouveau travail, on va dire. Et donc, dans la tête des gens, c'est bizarre, quoi. Comment tu peux gagner des sous en mettant des photos sur Internet? C'est un petit peu ça. Mais après, quand on fouine un peu, quand on cherche un peu, quand on s'y intéresse, c'est tellement intéressant, la communication, le fait de parler, de partager des valeurs, un état d'esprit via les réseaux sociaux. Je trouve que c'est juste génial. Maintenant, on est dans un monde qui est très digital, qui est très image, qui est très vidéo. Et du coup, je pense que je trouve que la population et les gens évoluent avec, on va dire, la nouveauté et tout ça. Donc, je trouve qu'en fait, on évolue et on est peut-être les précurseurs de quelque chose qui va être par la suite.
Donc, oui, sans aucun doute. Hein.
Voilà, c'est ça.
Qui va sans doute même évoluer parce que moi, je suis sur Internet depuis bien longtemps, tu sais, il y a fort longtemps. Et tu vois, par exemple, pour moi, ça a commencé à l'époque avec les blogueuses et
oui,
les blogueuses
bien sûr,
mode et les blogueurs high-tech, etc. Il n'y avait pas beaucoup de blogueuses high-tech à l'époque, mais peut-être aujourd'hui, il y en aurait plus. Pour revenir à l'interview et parler un petit peu de ton parcours, il y a une question que j'aime beaucoup poser à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Marine quand elle avait 7-8 ans?
Oula.
Quand t'étais une petite fille.
Bah, je crois que j'avais la même tête, j'étais un peu plus blonde, je crois. J'étais pas plus petite que ça, non. Il faut savoir que je suis pas très grande souvent, quand les gens me voient dans la rue, ils me disent « mais t'es toute petite en vrai, Marine ?»
Mais tu mesures combien ça?
1m58.
Ah oui, ok, je t'aurais dit plus grande, tu vois, de l'extérieur.
Que je t'ai accueilli avec mes chaussures. Là, je voilà. Mais non. Alors, je pense que elle a pas tellement changé. Enfin, moi, je suis toujours restée. Enfin, j'étais une petite fille pleine d'énergie, d'envie de vivre, de bouffer la vie à pleines dents, de courir partout. Je faisais déjà du sport. Qu'est-ce que je faisais comme sport? Je crois que je faisais un peu de natation. Je crois que je faisais ça. Mais j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de découvrir. Voilà.
Comment tu t'es mis au sport?
Alors j'ai une famille de sportifs, de très bons sportifs, c'est des valeurs dans la famille qui nous ont transmises. Après, si on n'avait pas fait de sport, ils ont jamais obligé à faire du sport. Si on avait voulu faire de la musique ou autre chose, il n'y avait aucun souci. Mais c'est vrai que je pense que ça a pas mal aidé. Et après, moi, j'ai fait du sport beaucoup plus jeune, mais après, je pense que le fait de passer mon diplôme de coach sportive et de m'intéresser à tout ça, ça m'a fait évoluer dans cet aspect de vie. Et à la base, moi, quand j'ai passé mon diplôme, c'était pour être coach de natation.
Tu vas trop vite, tu sais. Je vais te reprendre parce qu'en fait, on a le temps.
Faut que tu m'arrêtes.
Mais je le fais, tu vois. Et je me dis, ça y est, elle est en train de zapper. Il y a des fois des invités, tu vois, qui font des ellipses comme ça. Ils font, alors tu vois, j'ai fait du sport à 7 ans et puis d'un coup d'un seul, après, j'ai passé mon. Non, moi, ça m'intéresse de savoir ce que font tes parents dans la vie.
Alors, mes parents, mon père, il travaille dans une boîte d'informatique.
Okay.
Et ma mère, avant, elle travaillait pour une boîte qui faisait les photos scolaires, les photos de classe. Okay. Voilà. Okay. Et maintenant, elle travaille, elle est plutôt à la maison, elle fait des cours avec les ados, style Academia.
Okay.
Voilà, et puis elle s'occupe. Voilà.
D'accord, donc rien à voir avec le sport.
Ah non, pas du tout.
C'était plutôt les côtés loisirs, quoi.
Exactement,
c'est ça ? Ouais. Ok. Et donc, comment tu fais pour passer petit à petit de. Pour moi, il y a un vrai truc, il y a un vrai gap de. Tu sais, je ne sais pas si tu sais ça, mais il y a une étude qui a dit que les petites filles, en fait, et les petits garçons faisaient du sport. De façon à peu près identique jusqu'au collège. Et que, en fait, au collège, et souvent à partir du moment de la puberté, etc., le rapport s'inverse. Et en fait, les garçons continuent à faire du sport, voire même se mettent au sport, et les filles arrêtent de faire du sport. Ce qui fait qu'il y a tout un truc sur. Je mettrai le lien dans les notes du podcast, mais il y a une étude qui dit que, de ce fait-là, les femmes adultes font moins d'activités, d'une manière générale, elles marchent moins, même. Enfin, tu vois, il y a tout un. Ça a des répercussions folles après sur leur vie d'adulte. Qu'est-ce qui fait, toi, que tu as continué le sport ?
Je pense que c'est parce que j'aimais vraiment ça et parce que ça faisait vraiment partie de moi. Après, à mon adolescence, c'est vrai que j'ai eu un moment où j'ai pu faire de sport, où j'en ai fait un petit peu moins, pour différentes raisons. C'est soit les cours, soit on fait autre chose, on a différents parcours de vie. Mais moi, je pense que ça a toujours été en moi, donc j'ai tout de suite repris dès 17-18 ans et parce que moi, j'aimais ça. Donc je sais pas tellement pourquoi pour moi c'est quelque chose de c'est comme me brosser les dents, le sport c'est je fais du sport, je me brosse les dents, quoi. Donc je dois avoir les dents très blanches, ouais, peut-être.
Et pendant cette période-là où tu faisais pas de sport, t'as la sensation qu'il te manquait quelque chose avec le recul, là, comme
oui,
ça.
Vraiment, ouais. Mmh. Ouais. Parce que moi, je pense que le sport, c'est une façon de m'exprimer. Mmh. Vraiment.
Mais donc, tu faisais quoi à la place?
Bah, après, c'est un différent parcours de vie. Oui, après, bon, j'avais les cours, après, c'est un différent parcours de vie. J'ai arrêté le sport pour des petits soucis de santé. Donc, c'est des choses, moi, j'avais toujours ça au fond de moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à aller de l'avant et à pouvoir reprendre le sport. C'était un peu une thérapie aussi.
Ok. Qu'est-ce qui fait que pourquoi tu dis que le sport est une thérapie?
Ah, moi, je suis persuadée parce que dès que je suis énervée, je vais courir. Dès que je suis triste, je vais courir. Dès que je suis heureuse, je vais courir. Ben voilà, j'exagère un peu et j'extrapole un peu parce que des fois, ça m'arrive de. On me voit toujours comme une fille qui fait toujours 10 000 choses et qui, pour elle, oh bah tiens, je vais courir, oh bah tiens, je vais faire ça. Mais non, des fois, j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai envie de dormir, j'ai envie de voir personne, bien sûr que oui.
C'est fou.
Ah ouais.
Il y a des révélations dans ce podcast.
Ah non, non, mais.
Marine Neuleu n'est pas en train de courir 24 heures sur 24.
Non.
Tu te remets à quel sport alors quand tu reprends à 17 ans?
Bah, c'était principalement la natation. Moi, je pense que ça a toujours été. Après, j'en faisais en compétition, loisir. C'était pas du sérieux. Et c'était de la natation synchronisée. Donc, c'était pas de la natation sportive. Donc, c'est complètement différent. Nager, j'ai toujours nageoté, mais j'ai jamais nagé comme j'ai pu nager récemment.
Et pourquoi la natation synchronisée?
Parce que Marine. Non, pourquoi? Parce que je sais pas. Je crois que. Ma mère m'avait inscrite à ça pour que je teste et j'avais adoré.
Ok.
Voilà, je pense que c'est le sport, l'eau, le fait de s'exprimer aussi avec son corps, parce que c'est un art aussi, donc peut-être que c'est ça.
Il y a un truc aussi de groupe dans la natation synchronisée, oui. Où aujourd'hui j'avais l'impression que tu fais pas trop de sport co, t'es plutôt sur du sport individuel.
Ouais, ouais. C'est vrai que moi je fais beaucoup de sport, même presque que des sports individuels, mais pourtant je le fais beaucoup avec. Enfin, non, c'est vrai que je m'entraîne seule aussi. En fait, j'adore m'entraîner seule et j'adore être dans ma bulle et j'adore m'entraîner avec les gens. M'entraîner avec mes amis, m'entraîner avec des gens que je connais pas forcément, tu partages, c'est une autre forme de partage. Donc, ouais, m'entraîner en groupe, j'adore, et en même temps faire des sports seuls. Enfin, quand tu cours un marathon, t'es pas seule, hein, je peux te dire.
Oui, ça,
que
c'est sûr.
T'es pas seule. Hein.
Mais t'es seule face à toi-même, ouais. Et face à ta réussite.
C'est pour ça que moi, je suis pas compétitrice dans l'âme. Je suis compétitrice contre moi-même et avec moi-même. Mais être la première, ça m'intéresse pas.
Je veux bien qu'on parle de ça.
Ouais.
J'ai un vrai truc avec, d'une manière générale, chez Mademoiselle, dans les équipes de Mademoiselle. Et puis, avec les jeunes femmes que je rencontre dans ma vie, elles ont un vrai problème avec la compète. Mmh. Parce que j'ai la sensation que de leur point de vue, alors encore une fois, je fais des grandes généralités, mais j'ai la sensation que de leur point de vue, la compète, ça veut dire écrabouiller l'autre. Et en fait, elles n'aiment pas trop ça. Mm-hmm. Et alors que pour moi, la compète, c'est déjà être en compète avec toi-même. Et en fait, en étant en compète avec toi-même, tu finis par dépasser les autres de façon un peu naturelle.
Comment tu le perçois? Oui, c'est vrai que la compétition avec les autres, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien être les premiers, même comme tu dis, écraser les autres. Ils ne veulent pas juste les premiers, ils veulent écraser les autres. Après, c'est une mentalité auquel je n'adhère pas, mais que je comprends.
Mais parce t'aimes que... bien être la première.
Moi
bah, non. Mais quand tu... Ok. Quand tu... tu vois, par exemple, t'es contente de te dire que t'as été la première française, on va en reparler après, mais
oui,
à boucler
l'enduroman, oui.
Parce que pour toi, c'est un peu un accomplissement, quoi, tu vois. Et
moi, c'est plutôt le symbole. C'est pas de faire quelque chose de grand. Après... faire un marathon et d'avoir plein de gens devant moi, bon, c'est normal. Mais je veux dire, si je fais une compétition... Là, par exemple, j'ai fait une compétition de natation. On était 130 participants. Je sais pas combien j'étais, 20e, je sais pas combien. Et bah, il y a aucun... Mais je me suis jamais posé la question. Jamais, en fait.
De quoi?
De pas être la première.
Ah, okay.
Et ça m'a même pas effleuré l'esprit en me disant, enfin... Ah ouais, je suis pas première. Vraiment, mais rien à faire. C'est juste que moi, je suis plutôt dans le sens à me dire, ok, je suis honnête avec moi-même. Est-ce que cette course, je l'ai faite à fond? Est-ce que j'aurais pu faire un peu plus? Bah, si j'aurais pu faire un peu plus, là, j'aurais été déçue. Et si le soir, je peux me regarder dans un miroir et me dire bah ouais, Marine, là, tu pouvais pas mieux faire. Donc, je suis fière de toi, bravo, c'est bien. Et là, j'ai gagné. Voilà.
T'arrives à te. Donc ouais, c'est vraiment un état d'esprit pour toi de te regarder dans le miroir et, de t'auto-congratuler, pardon.
Alors, je l'ai pas vraiment. Si je l'ai peut-être fait, C'est plutôt une image de se dire, peut-être c'est le soir quand je me couche, je me pose la question. Tiens, salut Marine.
Non, je dis pas que tu le fais, voilà. Mais c'est juste, est-ce que
oui,
tu le penses?
En fait, je le pense. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez dur parce que c'est assez dur d'être en fait, on va dire de s'auto congratuler, de se dire bravo, c'est génial ce que tu fais, entre guillemets, t'es la plus belle, t'es la meilleure, bravo, voilà, c'est compliqué, mais c'est aussi, c'est pas facile aussi de se dire t'es nul, t'arriveras à rien, parce que on n'avance pas comme ça. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses, et encore une fois, ça dépend de mon état d'esprit, ça dépend de mon mood, ça dépend de un petit peu comment je me sens, de mon moral, mais des fois c'est pas facile, et des fois je me dis, mais t'es qu'une merde, vraiment. Ouais,
c'est
ça arrive.
C'est
dur
que ça avec toi parfois.
Bah ouais, alors moins que je pense, parce que je pense que je suis plus tolérante et.
Ces dernières
et
années, tu veux
parce
dire.
Que j'avance, je grandis aussi, je vieillis.
On va en parler après.
Ouais, ok, j'arrête. Mais oui, je suis quand même plus tolérante quand même avec moi-même, mais ça m'arrive encore de me dire, mais t'es. Voilà.
Ok. Ouais. Pour revenir un peu à ta chronologie.
Ouais.
Donc t'as 17 ans, tu reprends la natation synchronisée. Tu fais de la natation synchronisée où? Dans un club, en compète, c'est ça?
Ouais, je faisais ça à Nantes. Ouais. Parce que j'habitais à Nantes. Je faisais en compétition, mais c'était des petites compétitions, donc c'était pas non plus voilà. Mais c'était génial, un sport d'équipe. Et après, donc à Nantes, je passe mon diplôme de coach sportive. Où là, du coup, mon diplôme de coach sportive à la base, quand je suis rentrée dans l'école, je voulais passer mon diplôme pour être maître nageur.
C'est quoi comme
prof
école,
de natation? Ça s'appelle l'IRSS.
Okay.
C'est un BPJEPS que j'ai fait, un brevet d'État.
Okay.
Et du coup, la première année, tu vois un peu toutes les filières, tout ça. Et j'ai découvert la filière fitness, musculation, etc. Et j'avais déjà mon BESAN, mon brevet de maître nageur sauveteur. Et du coup, je me suis dit, Marine, va voir autre chose. Enfin, tu connais déjà ça, tu pourras toujours passer ton diplôme parce que j'étais assez douée, je me débrouillais bien. Donc, c'était pas très compliqué pour moi de nager, etc. Après, il y a tout ce qui est théorique. Mais donc, du coup, je me suis dit, Marine, va voir autre chose, teste tout ce qui est fitness et tout ça. Et là, on m'a dit, tu vas devoir faire des tractions, des trucs. Je dis, mais c'est pour les mecs, ces trucs-là. Et moi, quand je veux un truc, je l'ai. Je me suis entraînée aux tractions. J'ai mis une barre de traction au-dessus de ma porte de chambre. On devait en avoir 3. J'en ai eu 20 le jour de l'examen. Voilà. Ah ouais. Ouais, non, mais moi, voilà. Non, mais quand je veux un truc, je travaille pour vraiment. Puis quand c'est le sport, forcément, c'est ma zone de confort, entre guillemets. Donc, c'est plus facile. Mais donc voilà, donc j'ai passé mon brevet d'État, mon BPJEPS à Nantes. Et après, si je continue dans la chronologie, je suis arrivée à Paris à 20 ans.
Ok, pour voilà. Faire
Du coup, pour recommencer ma vie. Non. Je suis arrivée à Paris, j'avais pas d'amis, pas de logement, pas de famille, pas de travail, rien. Et j'avais envie de me challenger, me dire, allez Marine, go quoi. Donc j'ai cherché du boulot, puis j'ai commencé à bosser en tant que prof de fitness dans différentes salles.
Ok. D'accord.
Voilà.
Des 20 piges.
Voilà, c'est ça, ouais. Ouais.
Ok.
J'ai fait une saison en Club Med, en tant que Club Med, en prof de fitness.
Ah ouais?
Je faisais la danse du soleil autour de la piscine, les spectacles le soir et tout.
Ça t'a plu?
Ouais, c'était une super expérience, c'était vraiment bien parce que, pareil, c'est compliqué de toute jeune prof de fitness, toute jeune prof de donner des cours à plein d'étrangers, de donner des cours en anglais, de... Et c'est vrai qu'avec le recul, je ne sais pas si moi, maintenant, je le ferais. J'aurais peur maintenant. Je me dis, mais en fait, comment j'ai fait pour faire ça plus jeune? Je ne sais pas ce qui m'est pris partir comme ça, faire une saison entière.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Pourtant, c'était génial. Hein, mais après, j'étais plus jeune. Là, j'ai peut-être plus d'attache. Mais bon, ouais.
Ah, c'est marrant parce que... y a un épisode avec Denis Brognard qui est sorti là, donc le présentateur de Koh-Lanta, et il raconte que lui il est parti au Club Med pour faire maître nageur justement, et qu'en fait il était en échec total dans ses études de médecine, si tu veux. Pour lui c'était plutôt une fuite, tu vois, de venir dire ok, en fait je vais me barrer loin et comme ça je quitte tout, quoi. C'était pas vraiment ça, toi?
Moi j'étais plutôt dans le fait de comme il disait, de me barrer de Nantes.
Okay.
Et donc en fait j'ai été à Paris parce que c'est là qu'il y a entre guillemets du travail. J'ai mes grands-parents qui étaient en banlieue, donc au début j'étais chez eux, donc bon, j'allais à Paris tous les jours, c'était un peu loin, mais bon, c'est pas non plus le bout du monde. Mais ouais, donc peut-être que je suis partie, en fait c'est vrai qu'avec le recul, peut-être que je suis partie Parce que du coup, les saisons, c'est avril-septembre, donc c'est pas juste l'été. Pour être toute fraîche avec mon diplôme, commencer, et ouais, c'est ça, ouais.
Et c'est pas compliqué quand t'es née à Nantes, c'est ça, enfin, dans la...
Je suis née à Paris.
T'es née à Paris, ok.
Mais j'étais vivre après 6 ans en Martinique.
Ok. Et de revenir à Paris comme ça, quand t'as vécu en dehors de Paris
Aussi, je suis arrivée, j'ai dit je resterai pas 2 semaines à Paris. Finalement, ça fait 7 ans que je suis là.
Pourquoi?
Parce que, en fait, je pense que maintenant, ma vie d'aujourd'hui, je suis tout le temps en déplacement, un peu à droite à gauche. Je reste jamais vraiment... Enfin, je fais plein de choses. En fait, Paris, on voit comme une ville où il y a de la pollution, où la vie va à 1000 à l'heure, métro, boulot, dodo. Et ce qui est vrai en soi... Mais en fait, si on réfléchit vraiment à sa vie, si on articule notre vie autour de nos passions, de ce qu'on veut, de nos rêves et de ce qu'on désire, on peut trouver vraiment ce qu'on veut. Moi, je peux courir sur les quais, je peux m'entraîner dans plein de salles de sport. Si je veux faire mes courses à minuit, je peux faire mes courses à minuit. Le dimanche après-midi, il y a plein de choses d'ouvertes. Forcément, les opportunités professionnelles, par exemple, pour se rencontrer, c'est plus facile. Voilà, si j'avais été en banlieue, c'est un peu plus compliqué. Et puis... j'ai rencontré aussi des gens, je me suis fait des amis, et maintenant j'ai ma vie ici, et c'est vrai que quand je veux, je peux retourner à Nantes chez mes parents, j'ai mes grands-parents qui habitent dans le Nord, et on est très vite en banlieue de Paris, c'est très rapide en fait.
Pour être ouvert vraiment.
Je pense que les gens qui disent que Paris c'est horrible et tout ça, oui, si t'habites dans un petit village, c'est vrai que c'est pas pareil. Hein. Après, on peut ne pas aimer, je comprends très bien et je respecte, mais je pense que... Ça a quand même un charme, Paris, c'est quand même super beau et je défie tout le monde d'aller courir un matin à 6h du matin avec le lever du soleil sur Montmartre et se dire que c'est moche. Je défie tout le monde. Voilà.
Surtout qu'à 6h du matin, il n'y a personne. Et ça aussi, c'est un des charmes de 6h du matin à Paris.
Bien sûr, c'est pour ça qu'avec Chloé, on va courir très très tôt le matin parce qu'au moins, il n'y a personne, personne nous embête et au moins après, on se dit dans la tête, ils sont tous en train de dormir et nous, on est là. Bon, c'est dur, mais on est là.
Chloé, on reparlera un peu de Chloé après, mais Chloé, c'est ton associé aujourd'hui sur
l'île. Voilà, c'est ça, ouais.
Elle était sportive à la base ou tu l'as un peu engrainée?
Oui, alors je l'ai un peu engrainée, mais elle était sportive aussi de base. Avant qu'on se rencontre, elle courait aussi. Ouais. Et après, il y a une période où forcément, t'as le travail, t'as différentes choses dans ta vie. Et du coup, là, on a repris... elle a repris le sport. Elle a fait... on en reviendra peut-être, mais le GR20, on a fait plein de choses ensemble. Et du coup, on fait du sport ensemble, que ce soit en salle, à l'extérieur, on va courir. C'est notre forme de partage parce que on y reviendra, mais donc c'est ma meilleure amie aussi, et travailler avec sa meilleure amie des fois c'est pas non plus simple. Alors c'est très facile pour plein d'aspects, hein. C'est vraiment bien, mais et donc c'est vraiment génial de pouvoir partager ça toutes les deux.
On en reparlera après, je pense aussi, parce que c'est vraiment très intéressant de travailler entre amis, c'est à la fois cool et vraiment un vrai challenge aussi si ça se complique pas bien. Je voulais te parler de cette période. Donc là, tu as 20 ans et à partir du moment où tu te lances sur YouTube, si je ne me trompe pas, tu te lances sur YouTube à 24, c'est ça?
À peu près. Alors, je me suis lancée en premier sur Instagram. Alors, moi, je suis beaucoup plus, entre guillemets, forte sur Instagram dans le sens où j'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent sur Instagram.
T'as presque 500 000 followers.
Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai jamais... Enfin, mon compte Instagram, d'ailleurs, c'est un surnom parce que je n'avais jamais prévu que mon compte il soit hostie marin LLE. J'avais jamais prévu que... Ça avance comme ça. Et au début, je mettais des photos juste comme ça. Et ça a pris. Et je sais toujours pas pourquoi. Je comprenais rien au hashtag.
Si, c'est...
En fait, au début, je comprenais pas.
T'es la
fille girl
par...
Ouais, au début, c'était ça. C'était ça un petit peu l'image. Ouais. Beaucoup moins maintenant, voire plus du tout maintenant.
Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que t'as percé sur Insta aussi. Oui, parce qu'à une période, c'était vrai truc.
C'est ça,
la fille girl.
Ouais. Et du coup, j'ai lancé aussi YouTube parce que j'avais plein de questions. Donc du coup, de faire des vidéos, c'était plus facile de répondre en vidéo. Du coup, en étant coach sportif, de faire des petites vidéos aussi. Donc c'est un petit peu, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure.
C'est vrai que tes premières vidéos, c'est plutôt des... Tu montres des exercices, etc.
Oui,
quoi,
et puis je parle tout. Bonjour à tous, aujourd'hui.
T'as la sensation, quand tu regardes tes vieilles vidéos, que t'as progressé même...
Alors déjà, je les regarde pas.
C'est pas ton métier, à la base.
Non, mais déjà, je les regarde pas parce que c'est horrible pour moi de voir ça. Ça me met mal à l'aise, vraiment. Mais c'est pas facile d'être dans la rue tout seul et de parler à un appareil photo. Salut tout le monde, alors aujourd'hui... maintenant, j'y arrive. C'est pas facile, hein.
Comment t'as... Parce que t'as quoi? T'as le regard des autres, c'est ça qui est compliqué?
Bah, il y a le regard des autres, et même si on dit toujours, oui, on s'en fiche du regard des autres, oui, soit, mais bah, de s'exprimer à une caméra, c'est jamais simple. Mmh. Après, maintenant, je pense que maintenant, je sais où regarder, je sais quoi dire, je sais que c'est moi qui fais les montages après, donc je peux très bien commencer une phrase, m'arrêter, reprendre au milieu de l'autre phrase, parce que je sais dans ma tête que les cuts, je vais pouvoir les faire, enfin... Et puis aussi, j'ai peut-être plus de choses aussi à raconter. Et puis de toute façon, c'est comme quand on commence à faire quelque chose, on apprend à s'en servir dans différents domaines, différentes manières. Et surtout de se perfectionner, c'est ça en fait. Ouais.
Je me rends pas compte à quel point tes performances ou les défis que tu te poses ou que tu t'imposes à toi-même sont conditionnés par le fait que tu les mets aussi en scène, si tu veux. Tu vois, je sais pas à quel point ça s'engraine. Est-ce que si t'avais pas tous ces réseaux sociaux et cette chaîne YouTube, peut-être tu te serais pas lancé dans des trucs moins fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Alors, c'est une très bonne question, mais c'est pas des défis que je m'impose, c'est des défis que je me lance.
Pardon.
Très bien. Alors, moi, quand j'ai commencé...
Dans du roman,
ouais.
Franchement,
oui, non, mais...
c'est chaud. Hein.
Quand j'ai commencé un peu les réseaux sociaux, j'avais déjà fait un Half Ironman, j'avais déjà commencé à courir, etc. Donc déjà, j'avais fini déjà, je crois, troisième de ma catégorie, parce que dans ma catégorie, on était trois. Donc, parce qu'un Ironman à 21 ans, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Ouais. Ça s'est beaucoup démocratisé et tout le monde en fait. Enfin, tout le monde, beaucoup, beaucoup de gens en fait. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je faisais déjà ça sans le partager sur les réseaux. Et je pense que j'ai toujours aimé le sport, le challenge, mais j'étais encadrée avec une bande de potes qui m'ont aussi aidée. Et à plusieurs, c'est plus facile aussi. On parlait d'équipe et de sport individuel, mais c'est vrai que c'est très important. Et moi, je pense que tout ce que je fais, je le fais vraiment pour moi en premier, parce que ça va paraître très hautain et narcissique, mais j'en ai rien à faire des autres, enfin de leur avis, quoi. Alors, c'est sûr que ce serait mentir de dire bah, je m'en fiche que les gens me regardent ou pas. Oui, forcément, quand je cours, je le fais pour moi en premier, mais je me dis ouais, Marine, si tu craques, tu vas dire quoi à tes abonnés, tu vois. Donc, forcément, t'as un peu ça qui te frôle l'esprit, mais c'est pas du tout ce que je pense en premier, parce que j'aurais fait le marathon de New York comme tout le monde en parle, mais moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, j'ai pas à me forcer à faire des choses. Pour donner un exemple très concret, quand on est parti avec Chloé là pour faire le Morocco Swim Trek en septembre, donc c'était sur 4 jours, 4 distances en natation, et la première distance était un 6,5 km, finalement j'ai fait à peu près 7, et en fait j'ai pas pris du tout de plaisir. Je me suis ennuyée et je m'en suis même voulu. Je me dis, Marine, mais t'es en train de nager dans un cadre magnifique. Toutes les conditions sont ensemble, sont réunies. Et toi, tu prends pas de plaisir et ça te saoule. Et je suis sortie de l'eau et c'est un truc, je lui ai dit, mais c'était horrible. C'est pas que c'était dur, mais j'ai pas pris de plaisir. Et du coup, je lui ai dit, mais si ça va pas, j'arrête. Mmh. Et j'ai pas peur de dire aux autres... j'ai pas envie, parce que moi, me forcer à faire des trucs, en fait, je trouve que, entre guillemets, la vie, t'as tellement de choses dans ta vie, tu vas pas te forcer à faire des choses, quoi. Enfin, alors.
Et pourquoi tu prenais pas de plaisir alors à ce moment-là?
Je sais pas. Okay. Je sais pas si parce que j'étais pas dedans, pourtant, j'avais pas froid. Je sais pas, j'avais pas froid, c'était magnifique autour de moi, c'était bien organisé, je sais pas. Donc au fur et à mesure des jours, je me suis dit, bon, je vais essayer le lendemain, ça allait un peu mieux, et après, c'était juste génial. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui... Comme par exemple, j'ai fait la Saint-Élion, une course de 70 km, et j'ai abandonné au kilomètre 50, parce que je m'étais fait mal au genou. Et il restait entre guillemets que 20 km, et j'aurais pu terminer pour ne pas dire, oh, j'ai abandonné, voilà. Et je préférais dire aux gens, oui, j'ai abandonné, oui, j'ai eu mal, et c'est pas grave, en fait. Voilà, donc, moi, je pense à moi. Ça, c'est important. Donc oui, tout ce que je fais, je le fais avant tout pour moi.
Et c'est un truc que tu as acquis avec le temps, ça, d'être capable de dire aux gens, bah, j'ai abandonné. C'est plus simple pour toi aujourd'hui ou récemment qu'au début où tu étais sur les réseaux?
Non, je pense que ça a toujours été, mais là, c'est peut-être plus facile, quoique. Après, c'est marrant parce que là, j'en parle un petit peu par rapport à l'actualité. Je cours le semi-marathon de Paris dans 10 jours, là. Et tout le monde me dit, Marine, tu vas courir trop vite, tu vas être devant tout le monde et tout. Et ça me fout une pression, parce que déjà, moi, je cours pas vite, je cours très longtemps. Moi, je peux courir très longtemps, il n'y a pas de souci. Mais je cours pas vite. Et ça me fout une pression, en fait, sous prétexte que je suis, entre guillemets, enfin, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai un peu de notoriété, et que je fais du sport, à Marine, c'est la meilleure. Et si je fais un temps bien ou médiocre, ah bah alors, Marine. Mais, mais occupez-vous de vous. Enfin, voilà, après, je comprends, enfin, je comprends un peu dans la tête des gens, parce que des gens, des fois, ils le disent pas méchamment, mais c'est genre... Ah ouais, tu prévois que ça. Quand je pars dans un marathon et qu'on me dit t'es dans le sas 4 heures, bah alors, mais je fais ce que je veux. tu vois, c'est un peu oppressant des fois.
Okay.
Et je me suis jamais proclamée la meilleure, jamais proclamée celle qui faisait le meilleur temps.
Ouais.
Mais après, voilà, c'est comme ça.
Et t'arrives un peu à t'en éloigner.
Maintenant, j'arrive à m'en éloigner parce que je pense que depuis quelques mois maintenant, le côté pro et mon entreprise que j'ai avec Chloé, ça me prend énormément, que ce soit du temps, mais aussi j'aime ça et j'ai envie de m'investir énormément. Et on dit toujours qu'on peut faire du sport et se travailler, je suis d'accord, mais tu peux pas non plus tout faire. Et puis c'est important aussi enfin le sport, moi je suis pas athlète de niveau, j'irai jamais au JO, c'est pas ce que je veux. Et c'est mon plaisir et ma passion avant tout. Donc, si je veux faire une course et que la veille, j'ai pas envie de prendre le départ, je dois rien à personne. Et si je veux m'inscrire à une course qui a lieu le lendemain, je le fais aussi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va en reparler de cette évolution-là qui, je sens, date d'il y a un an et demi chez toi. C'est intéressant. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle de l'enduroman, forcément, parce que c'est un...
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est un truc de ma boule. Et puis, je pense qu'après, ça fera une bonne transition sur la suite.
Bien sûr.
Tu t'es lancé dans ce défi. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est un défi donc tu l'as réalisé en juillet 2018, c'est ça?
Juin 2018.
Juin 2018.
Voilà, c'est ça.
Que t'avais depuis 4 ans, c'est ça?
En fait,
c'est une idée qui s'était germée il y a longtemps.
C'était une idée
qui
avait germé il y a longtemps, mais les inscriptions, c'était un an et demi à l'avance, 2 ans à l'avance. Ouais, c'est ça à peu près.
Okay.
Donc, c'est beaucoup de temps à l'avance et en même temps, le temps, ça va très vite. Hein.
Donc, pour expliquer un peu l'enduroman, c'est quoi? C'est Paris-Londres?
Non. L'enduroman, c'est Londres-Paris.
Ah, pardon.
Ouais, parce que traverser la Manche dans le sens France-Angleterre, c'est interdit. Donc, ouais. Donc, du coup, ils font partir de Londres à Paris.
OK.
Et donc, c'est un triathlon, mais qui n'est pas dans le même sens que le triathlon, parce qu'on commence par la course à pied. Donc, c'est de Londres à Douvres, 145 km de course à pied, traversée de la Manche à la nage, et Calais-Paris à vélo, c'est 290 km à vélo. Et pourquoi on fait dans ce sens-là? On ne commence pas par la natation, parce que la Manche, c'est au milieu. Voilà. Et parce que la distance run de 145 km, on fait le run, on ne va pas faire 290 à vélo. Voilà.
Chaud.
Donc, voilà. C'est comme ça.
Ok, donc tu présentes ça en 3 secondes en disant comme si de rien n'était, quoi. Mais...
Non, parce que c'est vrai que, en fait, avec le recul, c'est vrai que je me rends compte que je présente ça comme ça parce que je me suis tellement préparée, surtout psychologiquement. En fait, c'est que tous les matins, je me réveillais, j'allais m'entraîner et je pensais qu'à ça. Et donc, ton cerveau, il réfléchit et ton cerveau, il se dit tous les jours, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. C'est comme quand tu t'inscris pour un marathon, des gens qui courent pas, ça leur paraît une montagne. Mais si tous les jours, tu te dis à ton cerveau, je vais le faire, bah oui, au bout d'un moment, oui. Et en fait, c'est ça. Ça se passe comme ça. Et la part de mental et la part de psychique est tellement importante, mais dans tous les aspects de la vie. Hein, dans tous les aspects de la vie. Et donc, oui, il y avait une grosse prépa physique, une grosse prépa comment s'alimenter, sur l'organisation qui était dingue. Ça, c'est Chloé qui a tout fait sur l'organisation. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais on a vraiment... pendant tous ces mois avant, il n'y avait que ça en fait. Et du coup, forcément, quand tu l'ancres dans ta tête, tu penses qu'à ça, tu fais que ça. Et donc, après, la plus grosse partie, bien sûr, pour moi, l'enduroman, c'est entre guillemets que la Manche.
Oui, c'est...
Vraiment. Parce que la course à pied, je pense que tout coureur qui court quand même 145 km, j'ai marché, soit, j'ai quand même pas mal couru, mais c'est plus réalisable. Mais traverser la Manche à la nage, en fait, est-ce que j'ai vraiment faire ça ? Même moi, je me pose la question. Oui, bien sûr, je l'ai fait.
Donc c'est
mais
combien ?
C'est
entre 30 et 40 km, c'est ça ?
C'est 33 km à vol d'oiseau, mais avec les courants, moi, je nageais à peu près 49. Ouais. Donc, mais il y a des gens qui nagent beaucoup plus, hein. Donc ça va, moi.
En fonction des courants, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, les courants. Ouais. Si on se fait emporter par les courants ou pas.
Et donc, ce que tu oublies de dire quand tu dis ça, c'est que tu es dans l'eau de mer.
Ouais.
T'es
dans la, salée.
Salée. Qui est froide en plus.
Qui est froide, oui.
Un des aspects qui m'a intéressé aussi, dont tu parles un petit peu, c'est que tu as été obligé de prendre du poids pour, éviter d'avoir.
Bah, c'est
parce
ça.
Que ça
parce
prend combien de temps de faire ça ? Ça prend combien de temps de faire 49 km ?
À peu près, quoi est-ce que tu penses ?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas.
15h06. Ouais. 15h06. Et sans toucher le bateau, parce que si tu touches le bateau, t'es disqualifié. Donc okay. Tu peux pas t'accrocher.
Donc il y a un bateau qui te suit. Mais
bien sûr, bien sûr.
Si jamais il t'arrive un truc.
Bah bien sûr, c'est même pour me ravitailler.
Oui. 15 heures.
Puis même, c'est une organisation. Hein. C'est pour ça que ça vaut aussi de l'argent et c'est beaucoup d'organisation parce que y a un pilote. Par rapport au bateau, parce qu'il y a quand même c'est un énorme trafic de bateaux, de cargo hein, qui passe. Hein, donc il y a tout ça autour, hein, bien sûr. On fait pas ça comme ça. Hein. Mais oui, il y a l'eau froide, il y a le sel. Il y a les méduses aussi, les méduses qui piquent. Il y a le fait qu'on ne voit pas les côtes, qu'on a le mal de mer.
T'as le mal de mer
trop.
En nageant ?
Je ne l'ai pas vraiment eu, mais ce qui était drôle, c'est que après j'avais le mal de terre quand j'avais fini.
Ah oui.
J'étais sur la terre et je tanguais et j'avais envie de vomir, c'était horrible. J'étais trop stable.
Mais ton oreille interne, était 15 heures dans la flotte.
Ouais. Bah forcément. Aussi, pareil, ceux qui étaient sur le bateau, Chloé, on lui avait dit, attention, tu as le mal de mer, elle n'a pas du tout le mal de mer, et comme quoi le mental est très... important, dès que j'ai touché la France, elle a commencé à... c'est fou comment c'est psychique. Et ouais. Moi, je suis persuadée que le mental, tu te dis un truc, tu dis un truc à ton esprit, à ta tête. Bon, après, toute
après, t'as le corps mesure, qui suit ou qui suit pas aussi.
Bien
mais
sûr, je vais pas dire, voilà. Après, donc oui, donc pour revenir à ce que tu disais, ce que je dis, je sais.
Pas, ça fait
bah oui, donc j'ai pris du poids parce que bah, t'as froid dans la manche, même si t'as une combinaison. Et la première cause de mortalité, entre guillemets, c'est les arrêts cardiaques dus au froid. Donc voilà.
Waouh.
Ouais.
Ok, et donc au-delà de l'aspect, il y a un truc qui m'intéressait aussi, c'est que tu disais qu'au-delà de l'aspect entraînement, etc., c'est que le fait de te prendre du poids aussi, ça t'a changé ton image aussi par rapport
oui,
à...
Oui, bah, c'est jamais facile parce que moi, j'ai un sponsor textile. Donc forcément, tu dois faire des photos, tu dois faire des vidéos, tu dois te montrer entre guillemets. Et donc, Marine, pourtant, tu fais beaucoup de sport et t'as de la cellulite. Et... Donc en fait, c'est pareil. Les gens, c'est pas méchant. Ils font pas le raisonnement, ils comprennent pas forcément. Puis, j'ai jamais eu non plus une image de mon corps. Voilà, comme je pense toute femme, c'est compliqué de... Ah bah oui, bah je me kiffe.
Tu te kiffes pas ?
Non, je pense qu'on a tous une histoire avec son corps. Moi, j'ai du mal avec mon corps et j'ai pas...
Encore aujourd'hui ?
Ouais, aussi, encore. Mais ça se fait, hein. C'est un travail, c'est un cheminement. Voilà, ouais. C'est ça. Mais donc, oui, après, c'est sûr que ça, c'était pas forcément simple. Après, je fais pas partie de celles et j'apporte aucun jugement par rapport à ça qui je montrais les bourrelets alors j'ai pris là ça sert à rien de montrer comme ça c'est pas je veux pas non plus me dénigrer voilà je okay. Ça se voyait un peu que j'avais pris du poids mais j'allais pas non plus tous les jours dire ah bah vous voyez voilà hein.
Okay.
Donc bon, je me respecte aussi un petit peu
pour reparler de l'enduromane donc si je me trompe pas, t'es la première française à l'avoir
oui.
Terminé, c'est ça ?
Oui, c'est ça. À l'avoir participé, à l'avoir terminé.
Et la 28e.
Ouais, 28e personne au monde à avoir terminé cette course.
Ouais. C'est quand même. Il y a peu de gens, ça fait peu de gens.
Oui, ça fait peu de gens, mais maintenant il y en a un peu plus. Et oui, quand on se renseigne, c'est. Ouais, maintenant il y en a un peu plus. D'ailleurs, tous les ans maintenant, enfin tous les ans, je regarde et cet été, il y a beaucoup de Français qui prennent le départ. Hein.
Ah ouais ?
Ouais, il y a beaucoup de Français qui prennent le départ cet été, ouais.
Et bon, t'as lancé une mode, hein, peut-être, non ?
Non, parce que peut-être que je l'ai montré peut-être un peu plus connu. Enfin, après, c'est vrai que moi, j'avais fouiné sur Internet hein, pour trouver ce ouais. truc-là, hein, parce que c'était pas non plus connu. Mais oui, je pense qu'avec ma force des réseaux sociaux, forcément, ça, j'ai beaucoup de triathlètes qui me suivent, donc forcément, ça, ça crée de la question de pourquoi pas moi ?
Comment tu le vis avec le recul, cet exploit ? Bah, c'est le truc, enfin, ce qu'on peut dire que c'est le truc le plus dur que tu aies jamais fait.
La manche, oui. Pour okay. moi, l'enduroman, encore une fois, c'est que la manche.
C'est que la manche, ok.
C'est quelque chose, je pense, ça a pris un tournant dans ma vie. Ça, ouais. ça m'a fait prendre un tournant. Et ouais, je l'ai vécu, c'était très dur. Mais ouais, maintenant, ça m'a fait changer, même par rapport à tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui gravitait autour, mon état d'esprit, ouais. Mmh.
Pourquoi tu dis que c'était un tournant ? Pour moi, j'ai l'idée que c'était sans doute ta plus grosse exposition médiatique.
Oui, aussi, mais encore une fois, s'il n'y avait pas les réseaux, j'aurais fait quand même. Hein. Okay. Vraiment, bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est que ça t'a sorti du simple truc des réseaux sociaux. On a parlé de toi sur Internet.
Oui, la télé et tout ça, ouais. Les journaux, bien sûr. Mais après, c'était génial, mais c'est pas ce que je voulais. Hein. J'étais pas non plus à dire.
Oui, voilà.
Mais je pense que oui, après, bah, avec toute cette prépa, j'étais complètement focalisée que sur ça et que. Et c'est super, mais c'est pas une vie. Enfin, la vie, c'est pas ça. Enfin, c'est pas à quoi j'aspire. Et du coup, moi, vraiment, ça m'a fait me dire, OK, maintenant j'ai fait ça. Peut-être que faut que je change un truc dans mon état d'esprit maintenant de m'ouvrir, de faire vraiment ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à ma boîte, mon entreprise, personnellement aussi, quoi. Donc, mais ce qui m'a beaucoup fait changer c'est mon accident.
Oui, voilà.
Juste après. C'est ça, en fait.
T'as parce eu que un pour moi, les deux juillet, sont. C'est ça?
Bah, 10 jours après, ouais.
OK.
Et donc, du coup.
Un accident grave. Pas... Hein, tu dis un
oui,
accident.
Oui, enfin, grave, c'est pas non plus. Voilà, j'étais quand même hospitalisée, j'ai eu plusieurs opérations.
Tu t'es fait renverser par un camion.
Oui, je sais, mais en fait, moi, je relativise toujours. Je peux encore marcher, je suis pas handicapée, je suis pas défigurée. Donc, je relativise toujours. Et en fait,
ça veut pas
avec
dire que ton accident n'est pas grave.
Non, bien sûr, mais il est grave. Beaucoup de choses est grave pour certaines personnes et d'autres, la même chose ne va pas être grave pour une autre. Donc oui, je vais pas diminuer ça. Donc oui, j'ai été quand même beaucoup touchée à la jambe, j'ai eu des opérations, j'ai eu de la rééducation, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses. Donc oui, mais je pense que c'est vraiment, pour moi, l'enduroman et mon accident, c'est deux choses qui sont pas forcément liées, mais il y a un pont. Et entre guillemets, grâce à ça, grâce à le fait d'avoir été au plus haut devant tout le monde et après au plus bas toute seule, et ben là, ça m'a fait changer.
Ok.
Vraiment.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la maturité ?
Bah, peut-être que c'est de la maturité, mais après, je pense que, bah, comme je disais, ouais, j'ai 28 ans maintenant, donc faut aussi que je me dise qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. C'est super de faire du sport et de dire « Salut tout le monde, aujourd'hui on va courir 30 km, génial, trop cool, aujourd'hui on va... » Enfin voilà, c'est super et j'adore et je ne regrette pas du tout. Mais aussi, j'ai envie de montrer que ouais, bah, je fais du sport, mais j'entreprends quelque chose et je crée un empire, une marque à laquelle on croit avec des bonnes valeurs. Voilà, c'est ça aussi.
Il y a un truc qui m'a un peu marqué aussi. Donc, tu as fait une vidéo que je mettrai dans les notes, c'est où tu as intitulé « J'ai besoin de vous parler ».
Oui, voilà. Ouais.
Le bon titre qui donne envie de cliquer sur YouTube. Où tu te livres un peu, en fait. Et j'ai la sensation que tu te livres un peu plus que ce que tu as pu faire par le passé. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un peu le truc de la maturité. C'est que c'est marrant parce que j'ai revu ta vidéo FAQ juste après ton accident, où tu minimises de ouf ton accident, encore plus que là. Tu vois, vraiment, t'es là. Alors, j'ai encore quelques petits bobos, mais vraiment, tu utilises ces termes, j'ai encore quelques petits bobos, alors que tu expliques là dans ta vidéo plus récente que, en fait, bah, t'en as chié, que c'était long et que t'as eu plein d'opérations et que encore aujourd'hui, c'est compliqué pour toi parfois. Je me suis dit, ah, c'est marrant, elle a vraiment parcouru un chemin perso entre le moment où t'es très positive, tu vois, dans ta vidéo sur YouTube où tu dis, vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai que des petits bobos. Putain, t'as pas l'air d'avoir eu que des petits bobos, hein, parce que vraiment, encore une fois, tu t'es fait renverser par un camion, c'est pas forcément évident. Et cette vidéo-là, où j'ai l'impression, pour la première fois, que tu... Peut-être tu laisses montrer un peu ce qu'il y a derrière la carapace, tu vois.
Ouais, alors après, par rapport à cette vidéo, par rapport à où je minimisais et tout ça, c'est vrai que peut-être que j'allais mieux avant que maintenant.
Okay.
C'est-à-dire que bah là, j'ai encore des douleurs, j'ai encore plein de choses et je peux pas faire vraiment ce que je veux au niveau de la course à pied.
Ça fait un an et demi, donc c'est
oui, et
c'est
en
long,
fait,
hein.
C'est que les gens se disent, bah, tu dois aller de mieux en mieux normalement. Mais comme, je vais pas rentrer dans les détails, mais comme moi, c'est un problème nerveux que j'ai, mes nerfs ont été sectionnés, la repousse, ça met jusqu'à 3 ans. Et donc, quand ça repousse, et bah, je ressens des sensations, et bah, du coup, ça me refait mal. Mmh. Et en fait, c'est ça. Le truc, c'est que peut-être que quand j'ai tourné cette vidéo où j'ai encore les petits bobos, bah, j'ai quand même fait des marathons entre. Ouais. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je suis moins capable de faire un marathon maintenant que peut-être il y a un an. C'est même pas, c'est sûr même.
Ok.
Voilà, donc c'est pour ça. Et donc oui.
Comment tu vis? Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi pour toi? Alors je sais que tu as été longtemps, enfin tu as eu de nombreuses blessures, etc. Enfin, t'es la vie de tout sportif, quoi. Mais je pense que là, c'est sans doute la blessure la plus compliquée que tu aies jamais eue, non?
Alors je vais te reprendre, je n'ai pas eu de blessure.
Ok.
Non. Je ne me suis jamais blessée de ma vie en faisant du sport, sauf mes accidents. Okay. Et c'est ça aussi que je pense que c'est important de dire, parce que les gens me disent « oui, t'en fais trop », mais j'ai jamais eu de tendinite, okay, de claquage, d'élongation, jamais rien, parce que je m'écoute. Et je fais du sport, on va dire, intelligemment, alors que j'en fais beaucoup, mais je fais tellement de choses diverses que voilà.
T'écoutes ton corps, et si
donc,
ton corps...
Donc c'est pour ça que moi, c'est la blessure, je découvrais la blessure. Okay. Donc oui, avec une fracture, avec des opérations, je savais pas ce que c'était un claquage. Je connais pas ça, moi.
Ah ouais, t'avais jamais eu de claquage?
Non, jamais.
Ok. Ah oui, donc j'avais
compliqué.
Pas cette info, donc ça relative encore plus, ça relativise encore plus ma question. Donc oui, là tu découvres ta vulnérabilité. Que, en fait, tu peux te casser en deux.
Ouais.
Ok. Comment tu le vis?
Bah c'est pas facile, et après pareil, j'essaie de relativiser, j'essaie de voir le positif, de faire en sorte que les choses avancent. Mais c'est pas simple tous les jours. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est les soucis avec la loi qui sont pas encore réglés, les soucis médicaux, j'ai encore des... Voilà, puis au niveau de la tête aussi, il y a encore des choses à faire aussi. Donc, mais ça avance, voilà.
T'es suivi par un psy?
Ouais.
Ok. Ou un psy peut-être d'ailleurs.
Ouais.
Ok. Tu veux en parler?
Non, pas spécialement.
Ok. Ça reste, c'est ton domaine à toi.
Voilà, c'est ça. Ça.
Mais on sent que t'es... C'est marrant parce que moi, de l'extérieur, vraiment, on se connaît pas, tu vois. Et de l'extérieur, je me suis dit, ok, Marine est en train de faire un chemin sur elle, c'est intéressant.
Ouais, ouais.
Et donc, dans cette vidéo-là, tu parles notamment du fait de peut-être de plus en plus t'investir dans cette entreprise là, que tu as créée il y a quelques années avec Chloé.
Bien sûr, alors c'est pas peut-être, c'est m'investir à fond, beaucoup plus, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me stimule, et c'est que quand on parle de quelque chose, quand on brainstorm sur un projet... Le soir, je pense qu'à ça, je suis à fond, quoi. Ouais. Et bien sûr, ça me prend, et j'ai trop envie d'avancer. Et je trouve que ce qu'on est en train de créer, c'est super beau. C'est des vraies valeurs, une vraie authenticité et une vraie image, en fait. Et je trouve que c'est génial.
Est-ce que tu as la même approche avec ta boîte que tu peux l'avoir avec le sport, c'est-à-dire 1000%?
Oui.
Alors que, en fait, c'est pas vraiment la même façon de... Enfin, t'es plutôt dans le cerveau qui travaille, on va dire, que dans le corps. Comment t'as adapté ça?
En fait, ça s'est fait petit à petit. Par exemple, je sais que moi, j'ai du mal à rester concentrée un moment.
Okay.
Et donc, en général, le matin, je fais du sport, je viens au bureau, je bosse jusqu'à 13h. Et après, je coupe. Et c'est-à-dire que je sais que ces moments-là, où je suis au bureau, il faut que je sois à fond et je bosse à fond. Parce que si dans ma tête, je me dis, oh, je bosserai un peu cet après-midi, ou je sais pas. Non, moi, il me faut des cadres pour ça. Comme c'est quelque chose, j'ai du mal à me concentrer, du coup je le fais comme ça.
Pense bien mettre.
Ouais. Du coup je lui ai fait comme ça. Je travaille sur des heures qui sont bien axées. Mais oui, moi je pense que c'est important aussi de. Puis c'est hyper pour moi de passer une ligne d'arrivée de marathon. C'est un peu comme lancer un nouveau modèle de chaussettes. Enfin c'est différent, mais c'est un peu la même. La même joie, quoi. La même réussite.
Comment t'en viens, toi, aujourd'hui, à te dire, en fait, petit à petit, peut-être qu'il est temps de alors, j'allais pas dire m'intéresser, mais en tout cas de m'investir plus dans ce projet qui a combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans, non, c'est ça?
La boîte a plus de 3 ans.
Ok, d'accord.
Voilà, mais c'est vrai que la boîte a aussi évolué. Nous, quand on a commencé à créer les chaussettes, au début, on pensait pas du tout qu'on allait en arriver là, hein. Pas du tout, du tout.
Ça vous est venu comment, d'ailleurs, de vous lancer dans les chaussettes?
Bah,
c'est quand même un truc très particulier.
C'était un truc que j'ai toujours aimé les chaussettes, un peu spécial. J'ai toujours aimé les chaussettes et on s'est dit pourquoi pas, parce que le créneau du legging, du t-shirt, du débardeur, des sweats était déjà pris entre guillemets. Nous, on voulait vraiment se différencier et faire du made in France. Et donc on s'est lancé dans ça.
Parlons de votre duo avec Chloé.
Oui.
Donc vous vous connaissez depuis quand?
On se connaît depuis 4 ans et demi. On se connaît depuis 4 ans et demi. On s'est rencontrés avec le sport. Bizarrement, voilà. Donc au début, on s'est rencontrés au sport, je lui faisais des séances de coaching, okay. Et elle était un petit peu en année un petit peu off au niveau du boulot. Et donc elle s'est mise à m'aider sur des mails, des trucs, parce que moi je suis nulle, mais nulle sur ça. Et elle m'était comme ça, juste comme ça. Et puis au fur et à mesure, elle a pas repris son boulot où est-ce qu'elle travaillait. Et donc elle s'est mise à bosser avec moi. Mais elle est passée, elle bossait pour des marques de luxe, Hermès, Chanel, etc. À bosser avec une fille qui fait des trucs sur les réseaux sociaux. non, vraiment. Et après, c'est vraiment l'envie d'être. C'est vrai que toutes les deux, on est très fusionnelles et je pense qu'on arrive à s'équilibrer. On est deux personnalités assez fortes et je pense que les points forts de l'une sont les points faibles de l'autre et inversement. Et je pense que ce qui nous aide aussi, c'est que, bah, comme on disait, c'est pas facile de bosser avec quelqu'un qu'on aime, avec une amie comme ça. Mais c'est peut-être aussi plus facile et mieux pour moi, pour elle, de défendre mes intérêts ou de voilà, parce que je pense qu'elle me connaît mieux que personne et on est très, très, on est tout le temps ensemble, on se parle tout le temps et on est vraiment très fiers de ce qu'on a réussi à créer, vraiment. Et moi, sans elle, j'aurais pas réussi à créer tout ça, et ça, c'est clair et net, quoi.
Comment ça se passe quand vous avez un désaccord? Comment vous le réglez? Parce que ça arrive forcément, j'imagine que vous n'êtes pas tout le temps...
En vrai...
Ah ouais?
En vrai, on n'a pas tellement de désaccords. En fait, c'est pas des gros désaccords, ça va être une question de couleur, de truc, on préfère un truc. Après, là où des fois, on, entre guillemets, on se fight un peu, c'est sur des situations de nul. Et après, franchement, on a eu deux grosses disputes, mais c'était pour des trucs perso. Mais après... Non, vraiment.
Ah ouais.
Ouais, vraiment pas.
Ok, vous avez la même vision par rapport à la boîte et tout.
Ouais, vraiment. Okay. Et je pense que c'est pour ça qu'avec elle que je pouvais faire ça. Et je pense qu'on a beaucoup de respect l'une envers l'autre aussi. On a beaucoup notre petite zone, on se laisse beaucoup notre petite zone à chacune, alors que pourtant on est tout le temps ensemble, on se parle tout le temps. Et c'est important. Et moi, je souhaite à tout le monde de trouver une Chloé.
Ça, j'imagine bien. Ouais. Si t'avais des conseils à donner, par exemple, aux gens qui sont en train d'écouter et qui veulent se lancer dans un projet avec une amie ou un ami, je pense que c'est un vrai truc. C'est un vrai
bien
truc
sûr.
Qui est compliqué à faire.
Ouais. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut bien connaître la personne, il faut bien savoir ce que veut aussi la personne, enfin, ce qu'elle veut. On sera jamais d'accord à 100% parce que c'est ce qui est normal. Mais je pense qu'il faut déjà poser les bases et faire confiance. Mais après, c'est pas facile, hein. Ça aurait pu très bien pu ne pas bien se passer. Et moi, je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer, il faut tester, il faut tâtonner, il faut surtout ne pas faire ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que il faut pas se forcer à dire bon, oui, ok, pour quelque chose parce que l'autre l'a dit. Parce que après, ça va pas bien fonctionner. Il va y avoir des désaccords. Et ça va ressortir un jour, quoi. C'est sûr.
Tu parlais très rapidement tout à l'heure du GRE. Vous êtes parties toutes les deux.
Ouais.
L'été dernier, c'est ça?
Oh là là, quelle histoire. Ouais, on est parties toutes les deux faire le GR20. En fait, Chloé l'avait déjà fait 2 ans avant. On avait besoin d'un truc qui nous booste, qui nous stimule et surtout pour se retrouver aussi.
Ok.
Et du coup, je lui ai proposé de faire ça. Et donc, on est partis en août dernier. Pour le GR20.
Je te coupe, mais c'était quoi l'objectif en fait à la base? C'était de... Est-ce que c'était par rapport à la boîte aussi?
De couper de la terre entière. Non,
okay.
non, c'était vraiment de se retrouver autre qu'au bureau entre des chaussettes et entre des contrats. Voilà, c'était très bien. Et c'était très symbolique pour nous parce que c'est quand même une épreuve physique. Et moi personnellement, encore une fois, j'étais surprise vraiment de la difficulté de l'épreuve. C'est pas juste de la randonnée, hein. Il y a beaucoup de l'escalade, c'est vraiment pas facile. Et ça nous a permis de faire quelque chose d'extrêmement dur, toutes les deux. Et c'est très symbolique, tu gravis des montagnes. Donc, tous les soirs, on se retrouvait au refuge, en haut de la montagne. Le matin, on la redescendait, on en remontait une autre. Et on était ensemble. Voilà, c'est ça. Elle me prêtait ses pansements alors que j'avais presque pas d'ampoule, elle en avait plein. Moi, je lui portais ses bouteilles d'eau. Enfin, c'était vraiment, encore une fois, avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai qu'on est pareil, on a besoin de se parler toute la journée. Hein. Enfin, juste d'être à côté, de savoir, ça fait très... j'ai l'impression de parler d'un couple, mais oui, on est un couple vraiment dans le sens...
C'est une bonne épreuve pour un couple aussi, je
vraiment.
Pense.
Tu vois, ah oui, on a croisé beaucoup de couples d'ailleurs. D'ailleurs le faire, mais c'est vrai que c'était une très bonne épreuve. Et après, pareil, c'était très dur pour nous deux, mais c'était surtout mental, et ça nous a permis de se poser aussi, parce que forcément il n'y a pas de réseau, tu coupes de tout ça, et et de finir toutes les deux et de se dire punaise, on l'a fait ce truc, voilà, hyper dur. Et après de, bah, de repartir sur pas des bonnes bases, parce qu'on n'était pas sur des mauvaises bases, mais dans le sens, c'est un truc en plus qu'on a en nous et il n'y a que nous deux, seulement nous deux, qui savons combien c'était dur et tout ce qu'on a vécu là-bas. Et c'est ce qui nous aide, je pense, pour nos projets. Et même encore des fois quand c'est dur, je dis on n'est pas sur le GR20 là, donc arrête. Hein. Et c'est pareil, inversement, elle me dit pense au GR. Voilà.
Ah, c'est intéressant.
Donc moi, je souhaite vraiment, enfin encore une fois, il faut de la prépa pour le GR20, on se lance pas comme ça.
Oui.
Mais pour des gens, moi je sais que Chloé l'avait faite un peu toute seule, d'ailleurs je sais pas comment elle l'a fait toute seule, un peu comme, pas une thérapie, mais c'est tu te retrouves, tu as besoin d'être seule et de faire quelque chose de dur et de te prouver à toi-même que, ouais, punaise, c'est badass quoi. Voilà.
Est-ce que c'est le fait d'avoir réussi à boucler ça ensemble joue dans ta décision aujourd'hui de te dire, je veux me réinvestir à fond dans la boîte ou m'investir à fond?
Non, mais okay. ça l'a amplifié. Enfin, je me suis dit, ouais, en fait, non, c'est bien sûr que tu voulais faire ça, mais oui, c'est encore plus évident.
C'est quoi tes projets, Marine?
Alors,
c'est quoi vos
prenez
projets
notes.
Prenez notes.
Alors, nos projets... pour l'instant, donc on a différents axes de projet. Donc tout ce qui est au niveau de professionnel, on a plusieurs salons qui vont arriver là. Toujours avec l'exposition des chaussettes, voilà. On est toujours en constante évolution sur différents modèles, différentes couleurs. Et aussi là, on est en travail sur des nouveaux produits qui vont arriver chez Liv, qui ne sont pas des sweats, des t-shirts, etc. Mais c'est quelque chose, je pense, que les gens vont être très surpris. Et on est vraiment très fiers de ça.
Okay.
Donc, c'est nouveau produit. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Pour voir.
Je mettrai les liens dans les notes. Voilà, hein, tu sais, on peut ça. Mettre ça dans les notes
voilà.
du podcast.
Pour voir un petit peu. Et donc, on est sur le développement de nouveaux produits pour
slips.
La marque.
Non, pas...
Et ben, non mais nous, on prend tout. On prend toutes les idées. On prend toutes les idées. Donc, on est sur ça. Après, on continue à travailler sur tout ce qui est les partenariats, les sponsors. Comme je disais, on va aller à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Voilà. Après, il y a tout ce qui est vidéo à côté, les photos, le contenu, etc. pour les marques. Et après, d'un côté sportif, on a toutes les deux un objectif sportif. Donc là, on fait le semi-marathon toutes les deux. On a tous les deux un objectif sportif qui reste encore secret. Donc bon, tu m'as demandé ce que c'était, mais je ne peux pas non plus trop en dire. Ou pas non plus trop trottiser. Mais oui, on fait pas mal de marches en ce moment. Voilà, c'est affaire à suivre.
Pas mal de marches en ce moment.
Voilà. Voilà. Mais voilà, c'est pas un truc révolutionnaire non plus. Hein.
Okay.
Comme tout le monde me dit, Marine, ils sont où tes gros défis là? C'est un peu genre les gens m'attendent. Maintenant, ils m'attendent. C'est oui. genre c'est limite, on se fait chier avec ton contenu là. Enfin, tu
vois. Ah ouais, t'as vraiment des messages comme ça?
J'en ai, alors c'est 1%, okay. mais j'en ai quand même, et c'est ceux qui touchent le plus, de se dire, mais du coup tu me suis, alors oui c'est sûr tu me suis pour mes gros défis, ma traversée de la Manche, mes Ironman et tout ça, mais je peux pas faire ça toute ma vie, et moi encore une fois, tout ce que je fais c'est avec mon cœur, et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas quoi. Donc oui forcément il y aura encore des courses, il y aura encore des trucs, il y aura encore la natation, c'est sûr. Mais je ne vais pas traverser la Manche tous les jours. Voilà.
Ça te fait peur un peu, ça, d'être obligé de te... Enfin, d'être obligé de te renouveler et de ce fait-là, peut-être, de changer un peu ton audience? Parce que peut-être, il y a des gens qui vont te follow en disant...
Oui,
bon,
mais ça ne me fait pas peur du tout parce que ça reste moi. Et moi, je veux toujours être franche avec moi-même et tous les soirs me regarder dans le miroir en me disant est-ce que tu fais ce que t'aimes et est-ce que c'est OK avec toi? Et donc, non, ça ne me fait pas peur du tout. C'est parce que... Si les gens veulent plus me suivre, me suivent pas, mais il y aura d'autres personnes qui vont me suivre pour ce contenu. Donc, ça vient, ça part. Voilà.
Merci Marine.
Avec plaisir, merci
et
à toi.
Et bravo pour ton chemin, dites donc.
Merci.
On sent vraiment que c'est un sacré chemin.
Ouais.
Hein.
Et la ligne d'arrivée, elle est encore très loin, mais il va se passer plein de petites choses. Il y a toujours des petits tournants, des murs, des escalades, sur plein de choses.
La ligne d'arrivée de la vie, t'imagines où elle est?
Ah ouais, ouais.
Elle est loin.
Ouais. Et moi, je pense que j'aurai une très longue vie.
Ok, pourquoi tu dis ça?
Parce que je le sais.
Ok.
Beaucoup encore d'expérience, voilà.
Ok. Moi, je te la souhaite en tout cas.
Merci.
À plus. Salut.
Merci.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.